Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité ce mardi 8 mars 2022, 13e jour de conflit en Ukraine. À l'ouest du pays, encore largement épargné par l'armée russe, on redoute de futurs bombardements qui pourraient non seulement tuer des civils, mais aussi détruire des monuments plus que centenaires. La côte est australienne, toujours confrontée à des pluies diluviennes et à des inondations. Le corps de 3 personnes ont été retrouvés aujourd'hui dans le Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud. Et puis en France, malgré la guerre en Europe, la campagne pour l'élection présidentielle continue. On connaît désormais la liste complète et officielle des candidats. Ils sont 12. Voici maintenant 13 jours qu'a débuté la guerre en Ukraine et sur place, l'armée russe poursuit son avancée, mais aussi les manœuvres dangereuses, puisque il y a quelques heures encore, l'Agence internationale de l'énergie atomique indiquait qu'un centre de recherche nucléaire situé dans la ville de Kharkiv aurait été endommagé par des bombardements, tout en précisant qu'aucune augmentation de la radioactivité dans cette région du nord-est de l'Ukraine n'avait été détectée. À l'ouest du pays, en revanche, la situation pour l'instant reste calme. Néanmoins, dans la ville de Lviv, où a été déplacée l'ambassade de France, les habitants redoutent des bombardements à venir. Ils font également leur possible pour protéger le patrimoine de cette ville située à proximité immédiate de la frontière polonaise. Je vous propose d'écouter le reportage de Cléa Broadhurst, envoyée spéciale de RFI en Ukraine.
La ville de Lviv, dernière grande étape à l'ouest avant de se diriger vers la frontière polonaise, se prépare à de possibles assauts de l'armée russe. L'ensemble architectural de la vieille ville est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Certains monuments datent même du XIIIe siècle. Et depuis quelques jours, les habitants recouvrent les statues de mousse, le tout entouré de barbelés. Les vitraux des églises ont été placardés de planches de bois solides. Les autorités locales, bien conscientes que des bombes ruineraient leur patrimoine, regrettent que l'UNESCO ne soit pas venu aider à sécuriser la ville. Pour le moment, elle n'a pas encore été touchée, seules des alarmes sonnent en prévention de bombardements. Mais lorsque l'on marche dans les petites rues de Lviv, on voit des regroupements d'hommes et de femmes venus chercher des armes et des munitions dans des magasins qui se sont reconvertis pour participer à l'effort de guerre. Une des tours de la ville, celle qui protégeait originellement les habitants des invasions venues de l'Est, s'est transformée en atelier de confection de filets de camouflage prêts à être envoyés sur le front. D'autres ont reconverti leurs locaux afin de permettre à qui le souhaite de venir faire des cocktails Molotov. Cléa Broadhurst, Jadel Khoury, Lviv, RFI.
Et comme je vous le disais en introduction de cette émission, nous retournerons à Lviv en deuxième partie de programme pour écouter le témoignage d'Annabelle Durand. Elle est journaliste et couvre la guerre en Ukraine pour la radio-télévision suisse. En marge des conflits purement militaires, l'Ukraine et la Russie se sont entretenus hier soir lors d'un troisième round de négociations sans grand succès. Vladimir Medinsky, le chef de la délégation russe, a toutefois indiqué que les corridors humanitaires en Ukraine devaient être opérationnels ce mardi.
Nous avons longtemps discuté des problèmes humanitaires des corridors.
We spent a long time discussing the issue of humanitarian corridors we discussed last meeting, which completely failed due to the Ukrainian armed forces refusing to follow orders of their command and administration. We have put the question point blank. We don't understand how to explain that, but we hope that these corridors will start working from tomorrow. The Ukrainian side has given us their assurance.
Ceci étant dit, Moscou a proposé certes d'ouvrir des corridors humanitaires, mais en direction de la Russie et de la Biélorussie, une proposition bien entendu rejetée par les autorités ukrainiennes et même qualifiée de cynique par le président français Emmanuel Macron. Par ailleurs, aux États-Unis, Joe Biden, le président, envisage la mise en place de nouvelles sanctions économiques à l'encontre de la Russie, notamment un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Mais à ce stade, rien n'a encore été décidé, c'est ce qu'a précisé Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche.
No decision has been made at this point by the president about a ban on importing oil from Russia. And those discussions are ongoing internally and also with our counterparts partners in Europe and around the world.
Cet embargo sur les hydrocarbures russes, il est également envisagé du côté de Bruxelles, mais en revanche, peu de chances que les 27 se mettent d'accord sur le sujet, et ce, tout simplement parce qu'en Allemagne, la classe politique est unanimement opposée à cette mesure, une mesure qui pourrait entraîner, selon ces derniers, la première économie du continent dans un blackout. À Berlin, les explications de Nathalie Versieux pour RFI.
Le travail d'arrache-pied avec les partenaires européens pour développer des alternatives à l'énergie russe, mais cela ne peut se faire du jour au lendemain. Pour le chancelier Olaf Scholz, il est pour l'heure impossible de se passer des hydrocarbures russes, alors que 55% du gaz, 35% du pétrole et la moitié du charbon consommé en Allemagne viennent de Russie. La dépendance au gaz est particulièrement problématique, l'Allemagne ne disposant d'aucun terminal gazier pour passer au GNL. De toute façon disponible en faible quantité sur le marché. Au cours du week-end, les ministres verts et le libéral ministre des Finances avaient déjà rejeté l'option du boycott de l'énergie russe, mais lentement le débat évolue. 54% des Allemands se disent favorables au boycott, refusent de financer la guerre de Poutine avec leurs factures de gaz. Face à ce génocide, il est de notre devoir de recourir à toutes les mesures possibles, souligne la députée libérale Strack-Zimmermann. Un arrêt des importations de gaz russe serait un défi mais pas une catastrophe, juge l'économiste Véronica Grimm, une voix pour l'heure encore isolée. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Le Parlement européen, qui était réuni hier à Strasbourg, a consacré une très large partie de ses débats à la guerre russo-ukrainienne. Et dans le cadre d'une déclaration solennelle, la nouvelle présidente du Parlement, Roberta Metsola, a fait part du soutien indéfectible de l'Union européenne apporté à l'Ukraine.
Nous savons le courage considérable qu'il faut pour résister en Russie. Notre message est le suivant. Poutine n'est pas la Russie. Des citoyens courageux russes, malgré les menaces d'arrestation et une répression brutale, continuent de se tenir debout. Ce sont des faiseurs de paix. Des centaines de pancartes avec des messages de paix écrits à la main et des slogans anti-guerre suffisent pour que les gens soient arrêtés. Selon le rapport, il y aurait plus de 13 000 personnes dans 147 villes russes qui ont été arrêtées pour avoir réclamé la fin de cette invasion. Rien qu'hier, plus de 4 500 personnes ont été arrêtées. Je veux exprimer notre solidarité avec tous ces manifestants en faveur de la paix qui dénoncent en Russie cette invasion et les applaudir pour leur courage de se prononcer publiquement. J'appelle les autorités russes à arrêter d'intimider ces manifestants et de relâcher immédiatement tous ceux qui sont détenus.
On se tourne maintenant vers l'Australie où une large partie de la côte est est toujours confrontée à des pluies torrentielles et aussi à des inondations. C'est le cas pour des milliers de personnes vivant à proximité de la George River au sud-ouest de Sydney où depuis hier s'abat un véritable déluge. Ces milliers de personnes ont reçu des ordres d'évacuation par ailleurs. La chaîne ABC indique que le corps d'un homme a été retrouvé dans une voiture à l'ouest de la ville d'après des sources policières, mais aussi quelques heures plus tôt, celui d'une femme retrouvé, lui, dans le secteur de Wentworthville. Elle non plus n'a pour l'heure pas été identifiée. Précisons enfin que les services de secours déconseillent à tous les habitants de Sydney de se déplacer en voiture aujourd'hui. Ces mêmes services, le SES, qui a précisé avoir reçu plus de 2500 appels depuis hier et procédé à environ 200 sauvetages dans des secteurs inondés. Et puis Dean Naramore du bureau de météorologie a pour sa part indiqué que malheureusement le risque d'inondation et de crue resterait élevé au cours des 48 prochaines heures dans le secteur de Sydney. On l'écoute.
Severe weather warning is current for heavy rainfall and damaging winds extending from the Hunter Coast all the way down to the Victorian border, including the Sydney metropolitan area, the Illawarra and the South Coast, and extending inland to the ranges as well. Then what we're going to see is the winds really start to pick up as we move into tonight and early tomorrow morning. particularly around the Illawarra Escarpment and through the Sydney metropolitan area and coastal communities. We could see winds gusting in excess of 90 kilometres an hour, and that's enough to bring down trees and power lines. And with soils already saturated, these winds are likely to bring numerous trees down, particularly in hilly areas. So definitely travel is very dangerous today.
Et dans le Queensland aussi, le bilan des inondations s'est alourdi avec la découverte du corps d'un homme âgé d'une trentaine d'années à proximité de la rivière Condamine hier après-midi, tandis qu'un autre est toujours porté disparu. Le nombre total de victimes dans le Queensland s'élève désormais à 13. Pour sa part, Anastasia Palaszczuk, qui dirige donc l'État du Queensland, a annoncé l'arrivée d'une figure de l'armée à la tête des opérations de reconstruction.
Today I'm very pleased to announce that Major General Jake Elwood will be Queensland's Flood Recovery Coordinator. Now, Jake is no stranger to Queensland, having served at some of the highest ranks in Queensland and federally. And he had no hesitation when we asked him to do this job.
Et autre conséquence indirecte de ces terribles inondations, la Croix-Rouge australienne est à court de sang. Les inondations dans le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud ont en effet réduit drastiquement le nombre habituel de donateurs et par ailleurs mis hors service 7 centres de collecte ainsi que plusieurs camions de collecte mobiles qui ont été ces derniers jours dans l'impossibilité de fonctionner en raison des intempéries. Un manque de sang que la Croix-Rouge estime à environ 3000 donations. Belinda Smietuk, la porte-parole de la Croix-Rouge, rappelle que de nombreuses personnes en Australie remplissent les conditions nécessaires pour faire un don de sang, mais que la plupart d'entre eux ne le savent pas.
We estimate around 14 million Australians may be eligible to donate blood, but only around 500,000 people do. This means there could be more than 13 million Australians who may be able to donate.
La star du cricket Shane Warne est bel et bien décédé des suites d'une crise cardiaque, c'est ce qu'a indiqué la police thaïlandaise après que le corps du joueur de 52 ans ait fait l'objet d'une autopsie à Bangkok. Le chef de la police thaïlandaise a évoqué lors d'une conférence de presse une maladie congénitale. Il a par ailleurs indiqué qu'aucun signe de contamination au Covid-19, aucun signe d'un possible meurtre ou d'une agression n'avait été détecté. On l'écoute.
There is no report of missing items. There was no sign of struggle. From the autopsy, the director of the hospital confirmed, from the autopsy, that he died of natural causes. His father had said that he had suffered from the tightness in chest and that he had planned to have a medical checkup when he returned from the holiday. The cause of death is natural, not a murder.
Le corps de Shane Warne va être désormais remis aux autorités consulaires australiennes qui le rapatrieront au pays. Des funérailles d'État doivent par ailleurs se dérouler prochainement à Melbourne, la capitale du Victoria. En France, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, qui aura lieu, je vous le rappelle, les 10 et 24 avril prochains, a été présentée hier officiellement par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Ils seront donc 12 à concourir, tour d'horizon avec Aurélien Devernois pour RFI.
La dernière ligne droite lui aura finalement été favorable. Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, a obtenu sur le fil les 500 parrainages d'élus nécessaires. Il rejoint ainsi les 11 autres candidates et candidats qui avaient déjà validé leur entrée dans la course à l'Élysée. Troisième candidature donc pour Philippe Poutou, comme son homologue trotskiste Nathalie Arthaud, mais aussi les représentants de l'extrême droite Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, et celui de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon. Pour l'écologiste Yannick Jadot, le représentant de la ruralité Jean Lassalle, et bien sûr le président sortant Emmanuel Macron, c'est la deuxième expérience présidentielle. Et puis au titre des petits nouveaux, le communiste Fabien Roussel, la socialiste Anne Hidalgo, Valérie Pécresse pour les Républicains, et un autre candidat d'extrême droite, Éric Zemmour. La course au parrainage qui aura une nouvelle fois agité la campagne avec une mobilisation des élus dans les dernières semaines. Au total, 13 427 signatures ont été validées par le Conseil constitutionnel contre 14 296 en 2017. Un repli continu lié au fait que l'ensemble des parrainages sont publics depuis 5 ans, ce que plusieurs candidats veulent abroger, d'autres préconisant le passage à des parrainages citoyens.
Les parrainages, en tout cas, Emmanuel Macron n'a eu aucun mal à en obtenir 500. Je vous rappelle, avant de terminer ce journal, que notre Zap France, que vous écouterez d'ici quelques minutes, reviendra en détail justement sur l'entrée en campagne du président sortant, Emmanuel Macron. Il se présente donc pour un second mandat consécutif. Mais avant de revenir à la politique française, on jette un coup d'œil à la météo du jour. Si comme moi vous êtes à Sydney, vous aurez peut-être du mal à le croire, mais il ne pleut pas partout en Australie. Au contraire, il y a même un très grand soleil à Perth aujourd'hui où la température s'élève à 34 degrés. Il fait 24 à Adelaide, 22 à Melbourne. À Sydney, donc, en revanche, c'est un véritable déluge. C'est également le cas d'ailleurs à Newcastle et à Wollongong. Dans ces trois villes, le thermomètre oscille entre 22 et 27 degrés aujourd'hui. Il monte en revanche jusqu'à 34 à Brisbane, où le soleil est de la partie aujourd'hui. Et puis il fait 33 degrés à Darwin, où le temps sera humide aujourd'hui.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.